8h07, live, arrobas, rockic.com, MSN ou encore pour Skype. C'est les façons de nous joindre en studio. On n'est pas vraiment en studio, on est très loin de là. 14h09, c'est comme ça qu'on va commencer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on est en direct de la Belgique. Est-ce que je peux dire Bruxelles? C'est bien ça, tout le monde? Oui, hein? Non? Non, on est dans quel coin exactement? Le secteur Charleroi, merci. Alors, on est dans le coin de Charleroi. Marie-Claude Hardy est avec moi. Il y a Erika qui est là. Théo, alias Théo. On a Joanne Bourlard. On a le père Samuel. On est super bien entouré. Alain, hein? Michael aussi. Hein? Et, pardon? Le soldat du Christ. Attention, le soldat du Christ. Alors aujourd'hui, c'est ça. J'ai la chance de pouvoir rencontrer le père Samuel, aller aussi voir le déroulement du procès. Aujourd'hui, 3 heures qui ont été, je vous l'avouer franchement, c'était pénible, laborieux parce que je trouvais que chez certains avocats que le père a et qui se fait défendre aussi, je sais pas, il manquait de dynamisme. Je trouvais que ça fêtait pas assez dans l'arène. Et je m'attendais peut-être un petit peu plus que ça de leur côté. Alors, vous écoutez le show Wake Up en ce moment. Ismaël Trépanier, Christian Dallaire qui est malade comme un chien, qui a décidé de rester couché parce qu'il a travaillé tard hier soir pour moi. Je le remercie beaucoup. Et bien entendu, justement, on aura l'occasion de pouvoir parler avec le père Samuel et Joanne Bourlard du déroulement du procès, du déroulement aujourd'hui de l'audience. Et avoir leurs impressions, c'est ça qui est fantastique. Alors, comme je vous disais, vous avez des adresses faciles à nous rejoindre. live@rockic.com, soit MSN. Je vous le répète assez souvent. Vous entrez ça dans contact. Vous faites souvent. On vous accepte, nous, de notre côté. Et même chose avec Skype. Si vous voulez parler avec nous, c'est très facile. Vous y allez sur le même principe. C'est vrai. Rapidement, je dois dire tout de suite merci à Marie-Claude Hardy qui a pris des grosses notes aujourd'hui et qui va pouvoir m'aider justement à faire une émission dans le sens du monde. Alors, on va s'arrêter en musique avec une toune et puis on revient justement avec les impressions de tous et chacun. Parce que c'est sûr que je vais parler à Théo quand même. Elle est à côté de moi, ce serait pas correct de ma part. Alain aussi, je vais avoir le feeling de tous et chacun par rapport à cette journée-là et aussi à notre jasage en direct, bien sûr, d'Europe. Une première pour nous. Alors on a une chance, on l'a pris. Et on est avec vous quand même ce vendredi 13 de juin. Je répète, 14h12, il est 8h12 pour le live@rockic.com, MSN, Skype, c'est les façons de nous joindre en studio. Je vous salue, il est présentement 14h20, oui, on est en direct de Belgique. Charleroi, oui, plus exactement, 8h20 pour ce qui est du Québec, l'heure du Canada. Alors, Père Samuel qui est pressé de parler, là, il est juste devant moi, il veut ajouter quelque chose. Mais bon, aujourd'hui, allumez pas tout de suite, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y avait un événement important. C'est pour ça qu'on est présent ici du côté de Charleroi. C'était le procès du Père Samuel. Père Samuel, vous pouvez ouvrir votre micro sans problème. Comment ça va?
Je vois que le père Samuel est très occupé.
C'est bon, père Samuel, bonjour. Aujourd'hui, 13 juin 2008, j'allais dire 2007 pour pas que je me trompe longtemps. Alors 2008, comment avez-vous vu je veux comprendre la sensation de vos yeux, ce que vous avez senti aujourd'hui au niveau de la cour là, avec le juge, vos avocats, expliquez-nous là.
Bonjour à tous, bonjour à tous les amis canadiens et à vos amis Ismaël. On les salue. Le procès était émouvant. Je répète tout le temps, si le procès est voulu préparer minutieusement, sans rien brusquer pour me condamner, comme disait le Centre d'égalité des chances, nous avons travaillé, lutté pendant 4 ans pour obtenir le procès contre le père Samuel. Pour obtenir ce procès de qui, de quoi? Donc ceux qui veulent dire, ils ont tellement demandé à tant de juges, procureurs de droit, pour obtenir, peut-être il y a eu en même temps pression sur les juges, sur le procureur de droit. Au fond, ce que j'avais dit il y a 6 ans, même plus, chaque enfant musulman né en Europe, bien islamisé, bien formé, islamiquement vraiment une bombe à retardement contre les enfants européens. Et ce que j'ai dit, effectivement, s'est réalisé. Ce qui s'est passé, par exemple, comme l'avocat Julien Pierre avait dit, à Londres, 4 Pakistanais nés à Londres, éduqués par les Anglais, parce qu'ils étaient musulmans, ils ont bombardé le métro. 57 personnes sont mortes, des milliers de blessés. Donc ce que j'ai dit réellement était réalisé. C'était une mission de ma part d'avertir, de dire prévenir c'est guérir, attention, oui, gouverner c'est prévoir, attention. Et ce que j'ai dit en même temps, c'est aussi, c'était une prophétie, mais en même temps une mission de ma part. Regardez, en Espagne, 200 personnes mortes par 4 musulmans dans les trains. Le train a été bombardé. C'est dommage que tous ces enfants européens meurent dans les trains, meurent dans les métros, meurent dans les avions, meurent dans les tours jumelles. 3000 Américains, avant l'invasion de l'Irak, sont morts dans les tours jumelles à New York par 2 ou 3 musulmans qui étaient accueillis à New York, en Amérique. On accueille tous ces musulmans. On n'a pas le droit de ne pas protéger les enfants européens. On n'a pas le droit de ne pas avertir. On n'a pas le droit de dire attention. Si vous avez 10 millions de bouddhistes, de japonais, de chinois, de congolais, de polonais, d'espagnols, d'italiens, pas de problème parce que nous avons la même civilisation, absolument même direction, même évangile, même conviction. Mais l'islam, c'est réellement au fur et à mesure, va devenir en danger. Prenez par exemple en Hollande, un artiste du cinéma, il a été égorgé absolument par un Marocain et au tribunal disait, je dois répéter encore, si je vais être libéré, je vais égorger des autres même. Donc l'islam a 3 ennemis éternels, selon le Coran, selon Mahomet. Mahomet, c'est le modèle de tous les musulmans. Selon le Coran, livre sacré des musulmans, chapitre 33, verset 21, vous avez un bon modèle, c'est Mahomet. Que ce que dit Mahomet au sujet des juifs, tout juif tombe sous vos mains, tuez-le. C'est inadmissible. C'est ça que je dénonce. C'est ça que je ne peux pas accepter. En ce qui concerne des athées, je les respecte, j'aime beaucoup les athées, les incroyants, les libres penseurs. Ce que dit le Coran, c'est inadmissible. Chapitre 9, verset 29. Tuez tout homme qui ne croit pas en Allah, au Dieu des musulmans. Humiliez les juifs et les chrétiens qu'ils payent vraiment la jizya, l'impôt. Eh bien, les juifs et les chrétiens dans les pays musulmans sont vraiment deuxième classe, tolérés mais pas libres. Leur but principal, d'éliminer non seulement les juifs et les chrétiens, même l'État d'Israël. Nous devons défendre l'État d'Israël, seul pays démocratique en Orient. En ce qui concerne les chrétiens, eh bien, les chrétiens, pour eux, sont les infidèles. Parce qu'ils croient au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Parce que les chrétiens disent, Jésus est mort, Fils de Dieu, crucifié et ressuscité. Ceux qui disent tout cela, le Coran, livre sacré des musulmans, dit textuellement, sont des infidèles. Lorsque vous les rencontrez, tuez-les au point d'en faire un grand carnage. Chapitre 47, verset 4. Encore au sujet des juifs, permettez-moi, je finis. Chapitre 33, verset 61. Où qu'ils soient les juifs acculés, tuez-les impitoyablement. C'est ça que je dénonce. Je dis, attention, prévenir, c'est guérir. Nous devons aimer tous les êtres humains, bien sûr. Moi, je prêche la fraternité universelle, sans distinction de classe, de race, de religion, absolument. Mais si c'est un procès voulu et préparé, ils sont capables de nous condamner injustement. Mais si c'est un procès juste, par la grâce de Dieu, nous allons gagner.
Moi, ce que je veux savoir aussi, Père Samuel, c'est aujourd'hui, là, j'ai constaté, il n'y a pas juste moi qui a constaté que je veux m'attaquer au côté avocat. Les avocats que vous avez avec vous, êtes-vous satisfait, êtes-vous heureux, êtes-vous content de ce qu'ils font pour vous en ce moment? Est-ce qu'ils vous défendent bien? C'est ce qu'on aimerait savoir parce que j'ai pas eu cette impression-là tout à l'heure. Je trouvais que il manquait de dynamisme. Je le répète encore, les gars qui vous défendent en ce moment, je trouve qu'ils manquent de conviction. C'est drôle. Je sais pas, juste peut-être c'est peut-être une question de ton, mais pourtant dans la façon qu'ils amènent les choses.
Eh bien, Churchill disait, La démocratie, c'est pire des régimes, mais il n'y a pas mieux. Eh bien, mes avocats, il n'y a pas mieux que mes avocats parce qu'ils sont très connus dans le pays. Le problème est ils ne sont pas calés, spécialisés dans l'islam. Et après, ils étaient pressés. Pour moi, pressé égale échec. Précipitation égale malheur. Précipitation égale échec. Patience égale succès. C'est vrai, c'est pour cela que j'ai demandé à Madame la juge 3 heures. Je dois plaider 3 heures pour dévoiler tout cela et pour même commenter ce qu'ils ont dit là-bas. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, ils disaient, ben non, je ne veux pas un procès self-service dès le commencement, j'ai dit à la juge, ah, on ne peut pas faire un procès self-service. Alors, j'ai dit, j'ai le droit de 3 heures. Bien sûr, vous avez le droit de 3 heures à parler. Elle a acté absolument. Et aujourd'hui, elle disait non. Mais vous étiez témoin, tout le monde est témoin. Donc, si je vais parler 3 heures ou 2 heures, ou 2 heures et demie, eh bien, je vais remplacer mes 4 avocats. Alors là, vous allez entendre ma voix, vous allez entendre des commentaires que je vais faire au sujet même des avocats qu'ils ont parlé, comme ce n'est pas leur thème, leur spécialité, je les comprends. Et je crois qu'il n'y a pas mieux dans le pays plus qu'eux, parce qu'ici, il n'y a pas des avocats spécialisés dans l'islam. Or, le problème de demain, d'aujourd'hui, non seulement de l'Europe, du monde entier, va être absolument l'islam. Et c'est pour cela, par exemple, notre historien Johan Bourla s'est spécialisé dans l'islam et il a écrit un beau livre, Le djihad islamique, islamisation de la laïcité. Et ça va arriver, mais l'islam n'est pas pressé.
L'islam n'est pas pressé, mais en tout cas, je trouve que, quelque part, de jouer avec les dates, parce que on y a eu une proposition d'un 13 de février 2009. Croyez pas que ça pourrait jouer contre vous, ça, Père Samuel? Croyez pas que cette date-là, parce que c'est quand même remis encore plus loin, on parle pas d'un an, mais presque, que 7 mois exactement, merci, pour le soldat du Christ qui me fait signe. Mais non, ça pourrait jouer contre vous. Vous êtes pas conscient de cela? Est-ce que vous croyez que ça pourrait l'être?
C'est un procès voulu préparé contre moi un an après ou 3 jours après. Ça vient eux-mêmes, absolument. Notre but vraiment de donner une bonne leçon de l'islamologie, qu'est-ce que c'est l'islam, pourquoi sont ici en Europe, de quoi il s'agit, pourquoi cette invasion téléguidée pour envahir les Européens, pour remplacer les enfants européens, pour démolir les églises européennes, pour bâtir des mosquées ici en Europe. Honnêtement, si je vais parler, plaider ce jour-là, eh bien tout ce que les avocats ont dit, la juge va rappeler tout cela. Je vais parler admirablement par la grâce de Dieu et je vais tout de suite, parce que je suis spécialiste au sujet. Chaque mot, je vais commenter et je vais quitter le papier. Je vais parler aux yeux dans les yeux de la juge. C'est très très important. Vous avez dit vous-même qu'ils étaient mous, qu'ils n'étaient pas très très disons calés. Mais je les comprends. Ce n'est pas leur spécialité. Et c'est pour cela que je vais montrer, je vais en même temps peut-être répéter certaines de leurs paroles. Allez, par exemple, un des avocats disait Guy Hersher. Hein? Guy Hersher, c'est un certainement athée, professeur de philosophie à l'Université libre des francs-maçons, l'Université libre de Bruxelles. Par exemple, il a bien dit, il y a un peu de commenter, de mettre un petit peu vraiment la musique dedans pour que les autres comprennent.
Maintenant, Joanne Bourlard. Joanne Bourlard qui est avec nous. On me dit de toute manière, on me fait signe que ça va. Joanne, vos impressions là, jusqu'à maintenant, là, ça ressemble. Vous en pensez quoi? Ça dit quoi?
Mais moi, je serais plus nuancé par rapport à ce qu'ont fait les avocats aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, un avocat spécialisé en islam, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est une espèce inconnue au bataillon. Mais je crois que les avocats se sont quand même bien débrouillés. Même si l'intonation qu'ils mettaient, la vie qu'ils mettaient dans leur plaidoirie n'était pas toujours des meilleures. Je crois que si on se penche sur le contenu, sur le fond, je crois qu'ils se sont pas mal débrouillés. Et je crois que certains arguments de la partie civile, du Centre pour l'égalité des chances, ont été sérieusement mis à mal par la plaidoirie des avocats aujourd'hui. Ceci devrait avoir une plaidoirie encore plus vivante et encore plus documentée par rapport à l'islam. Malheureusement, les experts ont été refusés. Le témoignage d'experts a été refusé l'année passée par la juge, ce qui fait que on doit se contenter de la plaidoirie des 4 avocats qui ne sont pas des spécialistes de l'islam, je le rappelle. Cependant, moi, je trouve qu'il y a quand même des choses qui se sont dites. Et on dirait, par rapport à la... Moi, je me situe par rapport à la juge, elle qui n'est pas spécialiste non plus de cette question de l'islam, je crois que elle a, elle aussi, appris beaucoup de choses. Même si on aurait pu, même si les avocats auraient pu faire mieux, je crois que la juge a appris des choses. Les avocats du père ont réussi à faire passer un message, et je crois que le message a été entendu par la juge. Ce qui fait que, à mon avis, même si le père souhaite parler, je crois que même en une heure, je crois que le père pourrait conclure de façon tout à fait claire, sans pour autant répéter tout ce qui a déjà été évoqué. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées, et je crois que si vous axez votre plaidoirie sur les points qui n'ont été qu'effleurés par vos avocats, je crois que là, elle aura un aperçu complet de la question et elle pourra se faire un jugement.
Oui. Eh bien, prenez par exemple Ibn Khaldun, c'est un juge musulman, un sociologue, un savant, un magistrat. Et je crois, je les comprends, ni le procureur de droit, ni la juge, ni nos avocats n'avaient pas une idée d'Ibn Khaldun, Ibn Khaldun, mort en 1406, tunisien. Et c'est lui, il était heureux, content de dire dans l'histoire universelle, en trois volumes, nous les Arabes, nous sommes des sauvages, c'est-à-dire les Arabes musulmans sont des sauvages, des barbares, des destructeurs. Voyez-vous tous ces pays qu'on a conquis, de l'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, de l'Espagne, de Syrie, de Turquie, de l'Irak, de Jérusalem. On a conquis tous ces pays, on a ravagé tous ces pays. Maintenant, tous sont des musulmans grâce à la barbarie que les Arabes musulmans ont chez eux. Et c'est ça, quand j'ai cité Ibn Khaldun, il pensait que, je suis d'accord avec lui, Ibn Khaldun, c'est un sage, c'est un magistrat. J'ai cité ce qu'il a dit. Par exemple, si je vais dire, Karl Marx a dit, la religion, c'est l'opium du peuple. Ceci ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord, absolument pas. Je ne suis pas d'accord, tout ce que Ibn Khaldun a dit. Alors, il m'accuse, l'avocat adverse, le centre d'égalité des chances, comme quoi Lopez Samuel est d'accord avec Ibn Khaldun. Ibn Khaldun a dit, les Arabes sont des sauvages, les Arabes sont des barbares, les Arabes sont des destructeurs, les Arabes prennent les pierres des maisons des autres, ils bâtissent leurs maisons. Et c'est vrai, les musulmans avec nous, ils faisaient ça. Ils démolissaient nos maisons, ils démolissaient nos vignes, ils prenaient les pierres de nos maisons à nous, chrétiens, en Orient. Nous sommes des rescapés orientaux chrétiens avant Mahomet, avant l'islam, que nous étions en Orient. Maintenant, pratiquement tous les chrétiens orientaux sont éliminés, massacrés, les églises brûlées, et même nos maisons démolies. Ils faisaient de leurs maisons, de nos maisons, des pierres de nos maisons. Ils démolissaient nos maisons, ils faisaient leur maison à eux-mêmes. Donc, c'est vrai, ce n'est pas moi qui a cité ça. Leur soif, c'était la haine des non-musulmans. L'islam a une haine éternelle, absolue. Parce que l'islam, il ne faut pas oublier, les Européens vont regretter amèrement de l'accueil de l'islam ici en Europe. Parce que l'islam, ils ont une haine viscérale contre tout ce qui n'est pas non-musulman. Et je suis absolument sûr, certains, oui, d'ici 60 ans, ils vont remplacer les Européens. D'ici 10 ans, 15 ans, vous voyez la guerre civile partout. Prenez par exemple les Kosovars. Ils ont parlé des Kosovos. Kosovo, c'est une région serbe.
Oui, mais la question que je me pose, Père Samuel, vous en êtes là pour une raison, c'est parce que vous avez tenu des propos quand même enflammés. Vous êtes d'accord?
C'est liberté de l'expression. On a le droit de dire, comme disait Voltaire. Sinon, si on n'a pas le droit d'exprimer comme liberté d'expression, alors là, nous allons être saccagé par les autres. Donc, nous avons le droit de dire ce que nous pensons, absolument. Mais, je n'ai pas dit.
Là où est-ce que je vais en venir, dans le fond, Père Samuel, là où est-ce que je vais en venir quand je vous dis que vous avez tenu des propos enflammés, c'est expliquez-nous un peu, attendez un instant, expliquez-nous un peu votre histoire, ce que vous avez vécu. C'est ça qui est important. Parce que tout à l'heure, la juge avait l'air d'être complètement déconnectée de la réalité et de ne pas savoir exactement qui vous étiez. Et pourquoi vous êtes là? Elle n'en était que seulement au fait, c'est-à-dire par rapport à elle, s'en tenait seulement qu'à vos propos, point.
Je vais vous répondre. Les paroles que j'ai dites de ma part ou dans mon livre, les versets angéliques, personne n'a assassiné quelqu'un à cause de mes paroles. Personne n'a fait des manifestations contre les musulmans à cause de mes paroles. Personne n'a tué quelqu'un à cause de mes paroles. Par contre, les paroles du Coran, livre sacré des musulmans, quand il dit ceci, chapitre 9, verset 5, tuez les incroyants là où vous les trouverez. Ça, c'est le danger. Tuez les incroyants là où vous les trouverez. Chapitre 9, verset 5. C'est ça le danger. Alors, mon passé, eh bien, nous sommes des rescapés. Nous étions des chrétiens catholiques, des chrétiens orientaux. Tous nos ancêtres ont été massacrés. Toutes nos églises ont été brûlées et saccagées. Toutes nos cultures étaient absolument massacrées. Nous sommes des rescapés, des vimis, c'est-à-dire tolérés, mais pas libres. Tolérés, mais pas libres. Les juifs et les chrétiens, jusqu'à maintenant, sont esclaves en Orient. Et nous devons dire, voilà, attention aux Européens. Vous ne savez pas qui vous accueille, vous allez regretter amèrement. Nous avons passé par là. L'expérience passe la science. S'il vous plaît, ne laissez pas que vos enfants soient persécutés par l'islam, ils vont être persécutés. Et je répète absolument, et je signe et j'engage ma signature, mais maintenant les enfants européens sont persécutés absolument par les musulmans. Alors d'ici quelques années, mais l'islam n'est pas pressé. Quand ils sont faibles, ils sont gentils. Dès l'instant qu'il devient fort, l'autre doit être balayé. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le Coran, dans les paroles de Mahomet, tout ce qui n'est pas musulman doit être éliminé.
Moi, je pense qu'il y a deux points importants que les avocats ont soulevés, ont analysés et qui vont peser dans la balance pour la juge. Premièrement, c'est votre vécu. Ils ont bien insisté, et vous aussi, lors de l'audience d'instruction il y a deux semaines, il y a un mois maintenant, que vous êtes né au Proche-Orient, que vous y avez vécu durant toute la première partie de votre vie, et qu'en tant que chrétien dans ces pays musulmans, vous avez souffert. Et ça, les avocats l'ont bien souligné, et la juge en a tenu compte. Première chose.
Mais attends, juste, est-ce que c'était la première fois? Est-ce que c'était la première fois qu'elle en tenait compte? Qu'elle savait que, justement, ce qu'avait subi le père Samuel dans son passé?
Pour ceux qui ne sont pas au courant du déroulement du procès, l'audience qui a eu lieu aujourd'hui est la troisième audience. Donc, il y a eu une première audience d'instruction le 13 mai, où le père a été interrogé minutieusement par la juge pendant 1h15. Au cours de cette audience
inattendue,
mais au cours de laquelle le père a magistralement répondu. Il s'est très bien défendu. Il avait déjà insisté sur le fait qu'il était né en Orient, qu'il y avait vécu et qu'il y avait souffert en tant que chrétien dans des pays à majorité musulmane. Et cet argument a été repris par les avocats. Et je crois que la juge va en tenir compte forcément dans son jugement. Deuxièmement, l'autre argument de poids, c'est les effets qu'ont eu votre livre, oui. Le livre qu'on vous reproche, qui a été écrit il y a maintenant 12 ans. En 12 ans, le livre a été écrit il y a 12 ans. Les versets angéliques. Eh bien, depuis la sortie de l'ouvrage, aucun crime, aucun délit en Belgique et ailleurs n'a été commis au nom de ce livre. Alors que, régulièrement, en Europe et ailleurs dans le monde, des crimes sont commis au nom du Coran que le père dénonce.
C'est ça.
Des paroles de Mahomet.
Voilà la nuance. Le père dénonce, dans son livre, le père dénonce les appels à la haine contenus dans le Coran et les paroles de Mahomet. Et c'est le livre du père qu'on va condamner, alors que c'est le Coran et les paroles de Mahomet qui tuent régulièrement en Europe et dans le monde. C'est ça l'incohérence. Et là, je crois que la juge commence à réfléchir tout doucement à cet état de choses. Et je crois que ça va peser dans la balance. Malheureusement, évidemment, il règne en Europe et en Belgique un climat dans lequel on ne peut pas critiquer l'islam. On ne peut pas le critiquer. Or, le père, lui, non seulement le critique, l'islam, mais en plus, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est à grosse louche, parfois. Et donc, forcément, il va vraiment à l'encontre du politiquement correct. Et je crois que, de toute façon, la juge ne pourra pas... Je crois qu'elle ne pourra pas l'acquitter. Elle ne pourra pas acquitter le père, parce que la pression est vraiment énorme ici en Belgique. Et tout ce qu'elle peut au maximum. Donc, par exemple, une peine pour l'exemple. Voilà. Mais je crois qu'elle condamnera le père à quelque chose, de toute façon.
Parce qu'on me donne à peu près le même son de cloche, mais vous donnez, enfin, on parle pour parler aussi autour de la table, mais vous donnez des arguments rationnels, qu'on me dit ici via le live Skype, concernant ce procès, en oubliant que c'est avant tout un procès politique, d'accord? Un procès politique, un procès politiquement correct, et qu'à mon humble avis, nous dit l'auditeur, que le verdict est écrit à l'avance, OK? Que les dés sont déjà joués, comme Joanne vient de l'expliquer exactement. Je serais très surpris qu'il ne soit pas condamné pour ces raisons, dans le fond. Nous sommes dans une société qui s'islamise, et le juge, la juge, va juger pour ne pas déplaire aux musulmans. Vous en pensez, Père Samuel?
Exactement, absolument. Par exemple, nous, les chrétiens orientaux, nous étions massacrés par les turco-musulmans et par les Kurdes. 2 millions arméniens, presque 1 million araméens qui parlent la langue de Christ, et aussi 600 000 syro-chaldéens. Même actuellement, il y a en Irak beaucoup de chrétiens qui fuient parce que les musulmans les persécutent. Donc nous savons qu'est-ce que c'est l'islam quand il a les moyens d'attaquer, de démolir, de massacrer. Écoutez, il kidnappait les filles chrétiennes, il les violait absolument, il les islamisait par la force. Alors quelqu'un qui vient de là, qu'il met les Européens en garde, et maintenant les Européens sont contre moi, ou avec l'islam, ou avec soi-disant l'égalité des chances, c'est absolument insoutenable, intolérable, et croyez-moi, je dois continuer, quoi qu'il arrive, le combat jusqu'au bout. Même si je suis condamné, Jésus a été condamné, Jésus n'a pas gagné son procès, mais il est ressuscité. Alors, de temps en temps, il y a des échecs, sont des succès, de temps en temps, il y a des succès, sont des échecs. Quoi qu'il arrive, la volonté de Dieu soit faite.
Ça tombe bien, on va aller en musique. Merci Théo qui me dit justement, si tu veux un café, ben faut mettre une toune. Effectivement, c'est ce que je vais faire. On va mettre la chanson Linkin Park, In the End. Ça tombe bien aussi de ce côté-là, In the End. Vous écoutez le show Wake Up, il est 8h43 pour le Québec. Mais bon, on est en direct de Belgique à Charleroi, 14h45. Wake Up, Ismaël Trépanier, Père Samuel, Joanne Bourland, Marie-Claude Hardy qui est avec nous. Théo, Alan, hein? Ben oui, Michael, dis salut quand même. Bon, parfait, OK, numéro 1. Alors, on s'arrête quelques instants et on revient justement pour terminer, mettre une conclusion à cet entretien. Je vous remercie beaucoup de la chance que vous nous donnez aujourd'hui, Père Samuel. Alors, on y va tout de suite.
L'émission qui suit est animée par un maniaque et comporte des propos stupides, virulents et quelque peu sarcastiques. Nous préférons vous en avertir.
Wake up! Vous écoutez présentement Wake Up avec Ismaël Trépanier de 6h à 10h pour le Québec et de midi à 16h pour l'Europe.
Pour rejoindre l'animateur en ondes, de façon
vocalement et gratuitement via Skype ou écrivez via MSN à live@rocket.com.
De la business, oui.
Attention, rocket.com, c'est ça! Wake up! Le programme qui suit a un contenu controversé pour les 18 ans et plus. Wake up!
Wake up, Ismaël Trépanier. Veuillez saluer le maréchal Ismaël Trépanier.
32 secondes.
6h pour l'Amérique du Nord.
Midi à 16h pour l'Europe.
Right now.
Samuel, s'il vous plaît.
Ils ont fait, mes avocats, ils ont fait tout ce qu'il fallait avec leurs possibilités. Je suis content de leur plaidoirie. Ils ont bien parlé, mais bien sûr, pourrait être mieux, mais c'était bon. C'était des meilleurs avocats du pays. Mais il devrait aussi dire, ce n'est pas le livre du Père Samuel doit être condamné avec le Père Samuel, c'est le livre sacré des musulmans, le Coran. Quand il dit, par exemple, Mahomet dit, le combat vous a été prescrit. Combattez les infidèles totalement. Les croyants musulmans doivent combattre les infidèles parce que ce sont des satans. Les infidèles. Alors, combattez vos voisins. Soyez durs avec vos voisins. Il est écrit dans le Coran, livre sacré des musulmans, chapitre 9, verset 23. Ô vous qui croyez musulmans, combattez ceux des infidèles, non musulmans, qui sont dans votre voisinage. Ô musulmans, ne soyez pas soumis aux incrédules. Luttez contre eux avec le Coran. Ô musulmans, tuez les infidèles, les incroyants, attaquez les juifs et les chrétiens. Alors, mon livre ne doit pas être condamné, ni moi, mais le livre sacré des musulmans, l'auteur du Coran, sallallahu alayhi wa sallam, doit être condamné parce qu'il excite les gens au meurtre, au crime, à l'assassinat. Je n'ai jamais excité les gens, appelé les gens au meurtre, au crime, aux assassinats, comme le livre sacré des musulmans, « Ô musulmans, tuez les incroyants partout où vous les trouverez », chapitre 9, verset 5. C'est inadmissible. C'est la haine contre le prêtre, parce que je suis prêtre, parce que je suis catholique et fier de l'être, parce que j'ai la barbe et la soutane. Ils nous détestent terriblement. Mais ce n'est pas sérieux. Moi, je crois, je n'ai jamais détesté personne. Je déteste la haine. J'aime la charité. Je prêche la charité universelle. D'ailleurs, dans la préface de mon livre, j'ai dit, tout homme absolument est égaux devant moi. Nous devons aimer tous les hommes sans distinction, mais pas leurs actions. Pas leurs actions, c'est-à-dire pas leurs pensées. Quand, par exemple, Mahomet dit, tuez tous les juifs, on n'a pas vraiment, on a le droit de dire non. On a le droit de dire non, c'est intolérable. Donc, vous voyez, le Pessamène n'a jamais dit tuer les musulmans, n'a jamais dit attaquer les musulmans, n'a jamais dit chasser-les de leur travail, n'a jamais dit ne faites pas des mosquées. Il y a ici, dans l'environ de Charleroi, 43 mosquées. 43 mosquées, et ces mosquées sont payées, financées par le contribuable, par les pauvres Belges. Et ces gens-là, ils n'ont rien fait pour la Belgique. Absolument rien. Donc, moi, le Père Samuel, prêtre catholique, eh bien, je vous assure, je donne ma vie pour tout homme qui vient chez moi. S'il est noir, s'il est blanc, s'il est musulman, s'il est indien, s'il est bouddhiste, je donne ma vie pour tous sans distinction. Après Dieu, je dois aimer tout homme comme Dieu. Après la Vierge Marie, je dois respecter toute femme, quelle que soit, comme la Vierge Marie.
Là, ce que je me dis, comment vous sentez-vous, dans le fond, Père Samuel, d'être l'accusé quand vous avez essayé de dénoncer, dans le fond, un mal qui est en train d'empoisonner carrément l'Europe, l'islam, là, on ne se le cachera pas, parce que aussi du côté canadien, c'est pas pour rien qu'on a des entretiens avec vous, et aussi Anne-Marie Delcamp, et avec plusieurs autres personnes qui ont fait comme vous, dénoncer l'islam, dénoncer le Coran qui... tient des propos assez graves, qui sont violents et qui, excusez-moi l'expression là, anglophone, mais qui brainwash plus d'un milliard de personnes sur la planète là, en ce moment-là.
Marie Delcambre, c'est une formidable femme, très éclairée, très intelligente. Elle sait de quoi il s'agit. Elle sait qu'est-ce que c'est l'islam. Elle est dedans jour et nuit. Eh bien, le Père Samuel dit aux Européens, mise en garde, c'est-à-dire... Attention, il vient chez moi. Qu'est-ce que vous pensez des musulmans? Ma fille est kidnappée par un jeune musulman. J'ai dit, écoutez, nous n'avons pas la même civilisation, la même religion, nous n'avons pas. Absolument, attention. Alors, les Européens me demandent, expliquez-nous l'islam. J'explique l'islam. Par exemple, expliquez-nous Mahomet. Qui est Mahomet? J'ai dit, Mahomet est né en 570, il est mort en 632, il a fait 19 guerres selon Al-Bukhari, selon la tradition islamique, il était chef de guerre guerrier lui-même, il s'est marié 15 fois, il avait 46 concubines, deuxième femme s'appelait Aïcha, donc elle avait 6 ans, il a dévirginisé quand elle avait 9 ans. Voilà, disons, grosso modo, qui est Mahomet. Et vous dites, comment il y a 2 milliards ou 1 milliard musulmans? Mais c'est la terreur, parce que Mahomet a dit, celui qui change de religion, tuez-le. Si l'apostasie, tuez-le, il est écrit même dans le Coran, chapitre 4, verset 89. Chapitre 4, verset 89. Si l'apostasie, tuez-le. Alors l'islam a peur. Alors c'est le fléau, c'est la haine de l'autre. C'est vraiment terrible. Donc le problème des Européens de demain, je vous assure, ça va être l'islam. Et ils vont parler de votre serviteur, le Père Samuel. Ils vont dire, mais le Père Samuel nous a dit tout ça. Il n'y a pas ce qu'il a écouté. On a écouté la pensée unique. Eh bien, je dois démolir les mensonges et la pensée unique. L'islam n'est pas ni paix, ni tolérance, ni amour. L'islam, c'est la haine de l'autre, de tout ce qui n'est pas musulman.
En fait, ce qu'il y a, je pourrais ajouter, c'est que le problème du Père, le seul tort qu'il a, c'est d'avoir eu raison trop tôt. Et d'avoir parlé trop fort. Parce qu'il y a ça aussi qui est très important, c'est l'image que le Père Samuel donne de lui. Quand il prend la parole comme un véritable tribun, il parle, il crie parfois, il hurle. Mais les gens en Occident ont l'image de quelqu'un qui est violent. Or, le Père n'est pas fort, c'est parce que tout le monde se tait. Alors lui, par charité, je vais dire, et par exaspération face à ce silence assourdissant, eh bien, il parle fort, il crie. Mais ce n'est pas du tout un homme violent et intolérant. Encore une fois, s'il parle très fort et s'il crie, c'est justement pour contrebalancer, pour contrer ce silence qui devient insupportable de la part de nos dirigeants politiques et religieux qui ne voient rien à l'islam, parce que c'est ça le problème aussi. Nos dirigeants politiques et religieux en Occident sont complètement ignorants de ce qu'est l'islam. Pour eux, toutes les religions se valent, que ce soit christianisme ou islam, c'est du pareil au même, ce sont des religions monothéistes, elles n'adorent qu'un dieu, or que le dieu des musulmans n'a pas du tout la même image que le dieu des chrétiens. Et pour eux, donc, c'est tout du pareil au même. Mais cette indifférence conduit à une inconscience, et à une inconscience grave pour l'avenir de notre société, puisque l'islam est en contradiction avec tous nos principes. Liberté religieuse, égalité homme-femme, liberté d'expression. Et d'ailleurs, on voit déjà, la liberté d'expression subit déjà de graves entorses dans le cas du père. Tout ça pourquoi ? Pour ne pas heurter les musulmans. Donc les musulmans, même en minorité, déjà, ils sont encore en minorité, mais déjà, ils exercent une pression énorme sur les consciences occidentales, au point de déjà comment diminuer la liberté d'expression.
Vous parlez de la femme. Eh bien oui, il est écrit dans le Coran, livre sacré des musulmans, chapitre 4, verset 34, « Frappez vos femmes jusqu'à la mort s'ils ne vous obéissent pas. » Ça n'existe pas dans le christianisme. Le témoignage de deux femmes égale d'un homme. La femme, c'est un objet pour vos objets sexuels. Je crois, le but de nos dirigeants, Jean Bourlard, historien, vous savez très bien l'histoire, leur but de remplacer les Européens par l'islam. Ça, c'est, je suis absolument convaincu. Nos dirigeants européens, ils ont une haine contre le christianisme, contre le catholicisme, invraisemblable. C'est pour cela que nous dénonçons tout cela. Il y a beaucoup d'Européens qui viennent chez moi. On ne dort plus. Psychologiquement, on tombe malade. Qu'est-ce qui se passe, monsieur, madame ? Les musulmans frappent à nos portes à n'importe quelle heure, 3 heures du matin, 5 heures du matin. Ils frappent à nos portes pour nous déranger, pour nous emmerder. On devient vraiment malade, dépressif, nerveux. Nous devons dénoncer tout cela. Je dis toujours, je ne suis pas... Si j'étais raciste, je dirais. Absolument pas, je ne le suis pas. Si j'avais propagé la haine raciale, comme ils disent, absolument pas. Je ne déteste que la haine. Je dénonce la haine absolument. Je dénonce la haine raciale. Je dénonce le racisme. Je suis quelqu'un très tolérant, absolument mondial. Je prêche la fraternité universelle pour tous les hommes. Mais il y a des vérités. C'est notre devoir de dire aux hommes, prévenir et guérir, qui n'empêche pas le mal, le favorise. Je crois que le mal de demain, le fléau de demain, c'est l'islam. Nous devons empêcher. Prenez par exemple les Européens. Ils n'ont pas donné l'importance à Hitler. Voilà, nous savons ce qui s'est passé. Maintenant, ils ne donnent pas l'importance à l'islam. Ça va passer la même chose. Les nazis de demain, ça va être l'islam. Alors, un de mes avocats, c'est vrai, il a dit 14-18. Il a parlé de Hitler un petit peu, ce n'était pas 14-18.
14-18 concernait en fait le massacre des Arméniens en Turquie orientale. Il parlait au début du XXe siècle des massacres, le génocide arménien a eu lieu dans les premières années du XXe siècle.
Vous savez là où j'ai vécu, si vous saviez comment nous vivions, vous seriez étonné dans quelle persécution, dans quel massacre, dans quelle haine des musulmans contre nous. Vous seriez étonné, vous pourriez déchirer vos vêtements. Nous n'avions le droit à rien, même si nous avions une vache est morte, nous n'avions pas le droit d'égorger cette vache parce que nos mains sont impures. Et nous n'avions pas le droit de manger. Nous avions, par exemple, quelques bois sur nos toits. Ils volaient carrément, ils les volaient. Ils venaient, ils prenaient nos matelas par force. Ils prenaient les femmes chrétiennes, les filles chrétiennes, violées, prenaient, kidnappées pour qu'ils deviennent musulmans. Nous avons vécu vraiment pire que les chrétiens dans les catacombes au temps de Néron. Et il n'y avait là-bas ni journaliste, ni presse, ni chemin, ni train. Nous étions totalement incognito du monde entier. C'est pour cela qu'un de mes avocats a parlé de génocide oublié. Qui a écrit génocide oublié ?
Oui, un jeune chercheur, Sébastien de Courtois, qui a écrit donc ce livre sur le génocide oublié, qui consiste, le génocide oublié concerne en fait les Assyro-Chaldéens.
Et les Araméens.
Donc en fait, tous les peuples qu'on appelle assyro-chaldéens et qui sont en fait des Arméniens et qui ont été massacrés en même temps que les Arméniens. On parle beaucoup du génocide arménien de 1915, mais en même temps que les Arméniens, les autres chrétiens d'Orient ont eux aussi été massacrés et on les regroupe sous le terme assyro-chaldéens. Ce sont en fait des Syriaques, des Araméens. Et eux aussi ont payé un très lourd tribut lors des premières années du XXe siècle. Ils ont perdu de nombreux membres. Et ceux qui ont survécu, ben, sont pour la plupart aujourd'hui en Occident, soit en Europe, soit en Amérique du Nord.
Les rescapés, bien sûr. Vous savez, ils les massacraient, ils coupaient leur tête absolument. Nous avons vécu tout cela. Des rescapés, ils sont un petit peu éparpillés en Europe. Pour le moment, peut-être vous avez 100 000, seulement 100 000 éparpillés en Europe. Mais si vous ne connaissez pas l'islam, vous ne savez pas. L'islam, c'est la terreur. C'est horrible. C'est terrifiant. C'est pour ça que les gens n'osent pas quitter l'islam. Et ils ont conquis tant de pays par le glaive. Ce n'est pas par charité. Absolument pas.
Il y a d'autres questions, Père Samuel. Il y a d'autres questions qui méritent d'être posées. Par exemple, autant à Joanne Bourlard qu'on vient de me donner. Par exemple, les musulmans qui n'ont pas à se soumettre à la... Ça a été mentionné durant le procès, là, qui n'ont pas à se soumettre à la Charte universelle des droits de l'homme à 100% ou à 90%. Ils peuvent carrément se soustraire.
Je vais dire pourquoi. Par exemple, dans la Constitution ou dans la Déclaration des droits de l'homme européen, dit tout homme peut changer sa religion. Tandis que chez les musulmans, la Déclaration des musulmans dit non, personne ne peut changer sa religion. Tout homme qui doit changer sa religion doit être tué. Donc, c'est inadmissible. Ce n'est pas la même chose, absolument. La femme égale, égalité entre l'homme et la femme ici en Europe, c'est la même chose. Eh bien, non. Dans la Déclaration des droits de l'homme, Eh bien, ce n'est pas égal. Ce n'est pas. Il y a la charia, la loi islamique, la sunna, les paroles de Mahomet qui comptent. Oui, je vous donne la parole, je vous en prie.
En fait, donc, pour remettre les choses dans leur contexte, les pays occidentaux, en général, reconnaissent la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été rédigée en 1948 et qui est la charte de l'ONU. Mais il faut savoir que cette charte n'a pas de valeur juridique. Elle n'a pas de force contraignante pour les membres de l'ONU. Donc on peut devenir membre de l'ONU sans forcément adhérer au principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est comme ça que les pays musulmans qui sont membres de l'ONU ne reconnaissent pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont leur propre déclaration, leur déclaration islamique qui porte le même nom presque, mais qui est affublée du terme islamique. Et là, c'est là que tout change. Car qu'est-il écrit dans cette loi, dans cette déclaration ? Il est clairement dit que tous les droits énoncés dans la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme doivent être compatibles avec la charia. Or, la charia, c'est la loi islamique basée sur le Coran et sur l'enseignement de Mahomet. Or, on sait très bien, le Père les a cités, quelques versets coraniques et quelques paroles de Mahomet. On voit que les principes de la charia sont en contradiction totale avec ce qu'on se fait, nous occidentaux, comme idée des droits de l'homme. Les musulmans disent « oui, mais nous aussi on a les droits de l'homme, mais ce ne sont pas les mêmes droits de l'homme, ce n'est pas la même déclaration et ne fait pas appel aux mêmes valeurs ».
Et tout à l'heure, il y a quelque chose aussi qui m'a fasciné, il y a un des avocats, je pense que c'est le premier avocat qui a dit, concernant la fameuse tolérance, c'est le troisième qui a dit ça. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, c'est en se disant des phrases comme ça qu'on se s'auto-traite de gens racistes. Il a mentionné parce que lorsqu'il y a des immigrants qui désirent venir, par exemple, en Belgique, peu importe l'endroit, on a tendance à dire, s'ils sont pas contents, ils n'ont qu'à à lever les feutres, à partir puis à s'en aller. Mais il me semble que c'est logique de se dire ça en soi et que ce n'est pas raciste. Si on est tout à fait. Père Samuel est un immigrant. Justement dans les notes que Marie-Claude a pris tout à l'heure, il vient du Liban. Il n'a qu'à y retourner. C'est ce que l'avocat a mentionné mot pour mot. Racisme, dans le fond, il n'a qu'à y retourner. Si vous n'êtes pas content, Père Samuel, retournez chez vous. En soi, c'est pas du racisme. C'est une forme d'adaptation aussi de l'endroit où ce que vous allez. Vous ne pouvez pas arriver à un endroit et faire comme bon vous semble, prendre vos droits et libertés que vous aviez de l'autre place les pousser dans la gorge des autres gens autour de vous. Il me semble que ça fonctionne pas.
Si je suis immigré, je dois parler comme les Européens. Je dois manger ce que les Européens mangent. je dois enterrer mon grand-père s'il est vivant dans des cimetières européens, tandis que les immigrés musulmans, ils demandent des cimetières, ils demandent des abattoirs, ils demandent des boutiques pour le halal, ceci on peut manger, on ne peut pas manger, ils demandent des voiles, mettre les voiles sur leur tête dans les universités, parce que Mahomet a dit, prenez le voile sur votre tête, il est écrit chapitre 33, verset 59. Donc, même si les Européens égorgent une vache, les musulmans ne peuvent pas manger la viande de cette vache parce que les mains des Européens sont impures. C'est comme par exemple, les Européens, même comme touristes, ne peuvent pas aller en Arabie Saoudite, c'est-à-dire la Mecque et Médine, parce que nous sommes infidèles, nos pieds, nos mains sont impures. Tandis que tout le monde va à Rome, tout le monde va à Milan, il n'y a personne qui dit non. Donc, c'est vraiment l'islam, c'est raciste dès le commencement, quand Mahomet a dit « chassez tous les juifs de l'Arabie ». Effectivement, Omar, deuxième calife, à l'année 640, il a chassé tous les juifs et tous les chrétiens de l'Arabie saoudite. Et jusqu'à maintenant, pas d'église, pas de croix, pas de temple maçonnique, pas d'évangile. Alors, qui est raciste? Les Européens, les chrétiens ou l'islam? L'islam est raciste dès le commencement, absolument. Après, deuxièmement, le prêtre n'a pas de nationalité. Saint-Pierre, le premier pape, il venait de l'Orient, il a fondé la papauté à Rome. Donc, je suis son oncle, d'une certaine manière. Donc, c'est grâce à Saint-Pierre que la papauté existe. Et la papauté a civilisé l'Europe par des universités, par des écoles, par des dispensaires, par des hôpitaux. Prenez par exemple en Belgique, il y a la grande université, l'université de Louvain. C'est un pape qui l'a bâti, qui a fondé cette université, Martin V. Donc vous voyez, le christianisme, il n'y a pas de racisme, absolument pas. On ne peut pas être raciste. On peut aimer tous les hommes sans distinction, mais pas leurs actions. On peut aimer tous les livres sacrés, mais pas ce qu'il y a dedans. Tuer les infidèles, attaquer-les, tuer les incroyants. C'est inadmissible. Mon devoir absolument de dévoiler tout cela aux Européens parce que les Européens ne savent rien de l'islam. Absolument rien. Nous devons dire tout cela aux Européens. Maintenant, c'est à vous de choisir. Mais alors, ils vont nous taxer de rétrogrades, de racistes, de fascistes parce que nous disons la vérité. La vérité doit être dite quoi qu'il arrive. Sinon, la vérité va être fâchée. Et quoi qu'il arrive, nous devons dire la vérité. Et la vérité rend libre, je suis sûr et certain.
Dans le fond, j'ai un commentaire ici, mais en réalité, aujourd'hui, pour faire suite aussi à ce que vous disiez, Père Samuel, en réalité, dans le fond, aujourd'hui, en Europe et en Belgique, c'est le pays qui est rendu islamisé carrément. Et donc, ceux qui critiquent l'islam doivent partir. Je demanderais aussi peut-être à Joanne Bourlard de répondre à ça. Puisqu'ils critiquent, dans le fond, la culture qui devient dominante, c'est la réalité européenne et les pays que nous avions connus dans notre enfance n'existent plus. Ce sont des simples espaces géographiques sans la culture qui était les leurs. Joanne?
Oui, l'Europe est aujourd'hui en train de se vider de son fond culturel et de se faire remplacer par une autre culture contre laquelle elle a toujours lutté. Parce que si l'Europe existe aujourd'hui, c'est parce qu'elle a notamment lutté contre l'islam. Quand on voit l'histoire des Charlemagne, hein, l'Empire carolingien déjà s'est constitué comme une barrière contre l'islam d'une certaine manière. Et depuis lors, ça n'a jamais cessé. Les musulmans ont toujours donné des coups, des assauts contre l'Europe, sauf durant une période, la période des croisades. Là, c'est la seule période où les Européens ont riposté. Et on le leur reproche encore aujourd'hui. Mais les musulmans qui, eux, ont attaqué durant les 4 siècles qui ont précédé les croisades et durant les nombreux siècles qui ont suivi, là, on ne leur reproche rien. Et c'est justement cette démission des politiques et des responsables politiques et religieux européens face à cet islam conquérant qui va nous coûter cher, parce que si on continue comme ça, bien d'ici une ou deux générations, l'Europe sera complètement passée à l'islam.
Est-ce que Vatican a été attaqué par l'islam avant les croisades?
Oui, rappelons par exemple, à titre d'anecdote, on va dire que 250 ans avant la première croisade, eh bien Rome, qui est le centre de la chrétienté, a été pris d'assaut par les musulmans, qui ont détruit Saint-Pierre, qui ont saccagé la basilique Saint-Pierre de Rome, le haut lieu de la chrétienté en Europe occidentale. Le pape a été soumis au paiement d'un impôt très lourd. Et aujourd'hui, que par exemple, les soldats américains aillent assiéger la Mecque et détruisent la Kaaba, donc le centre du monde musulman. Mais ça ferait un tollé dans le monde. En ce qui concerne la prise de Rome, personne ne connaît cette date de 846. Elle est absolument inconnue du grand public. Or, c'est une date capitale parce que c'est à partir de là que la papauté va se dire maintenant, ça suffit, on va organiser la riposte. Mais pour organiser cette riposte qu'ont été les croisades, il a encore fallu attendre 250 ans pour avoir le temps que l'Europe se coalise, que les nations européennes se coalisent pour créer vraiment un mouvement de résistance vis-à-vis de l'islam.
Effectivement, le Saint-Sépulcre a été démoli complètement par un calife fatimide de l'Égypte. Alors, Saint-Jacques de Compostelle a été démoli complètement par l'islam. Tunisie, Algérie, Maroc étaient des chrétiens. Donc, avant les croisades, tous ces pays étaient saccagés totalement. Ils violaient les femmes européennes. Ils déchiraient leur vagin pour qu'ils ne fassent pas d'enfants. Et quelqu'un qui ne voulait pas devenir musulman, il était empalé. Vous savez, qu'est-ce que c'est le mot empalé? Et nous avons passé par tout ça. Prenez par exemple, en Égypte, il n'y avait pas de musulmans. En Irak, la même chose. En Turquie, la même chose. Maintenant, la Turquie, presque 100% musulmans. Où sont les chrétiens? Tous ces Byzances, tous ces Grecs, tous ces catholiques, eh bien, soit massacrés, soit démolis complètement. Sainte-Sophie, l'église de Constantinople, en 1453, était saccagée par l'islam. Tuer tous les Grecs, donc l'islam, là où il va, il n'y aura jamais sécurité, il n'y aura jamais propriété, et toujours il y aura des problèmes. Dès le commencement, à partir d'Ismaël et d'Isaac, ça a commencé. Et ça va durer jusqu'à la fin des temps. Je suis absolument sûr et certain. Aujourd'hui, quel est l'Européen? Un Européen ne sait absolument pas. Tunisie, Maroc, Algérie étaient des chrétiens. C'est vrai? Et bien sûr, oui. Donc, l'ignorance est pire des maladies. Nous devons ouvrir les yeux des Européens sur le plan géographique, historique, religieux. Maintenant, c'est eux de choisir.
Alors, c'est depuis que j'existe que c'est de ma faute. Alors, c'est depuis qu'Ismaël et Isaac sont présents qu'il y a un peu.
Ce qui est dans la Bible, Ismaël, c'est un sauvage. Il va être toujours contre ses frères. Effectivement, l'islam est toujours contre les juifs et les chrétiens. Absolument. Et ça va aller jusqu'à la fin des temps. Parce que Mahomet a dit, le prophète d'arabe musulman, la guerre sainte contre les non-musulmans doit être continuée jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde, même s'il me reste un poignet d'hommes et de femmes. Donc c'est du sérieux ce que nous disons. Vous savez, on n'a pas la haine contre l'islam. Nous ne détestons pas l'islam, absolument pas. Nous aimons les musulmans comme les autres, mais pas leurs actions, pas leurs livres sacrés, pas les paroles de Mahomet. Quand il dit « Tout juif tombe sous vos mains, tuez-le ». Écoutez, on ne peut pas aimer cette phrase. Oh, jamais, absolument jamais. Les infidèles, massacrez-les. Chapitre 47, verset 4. On ne peut pas accepter tout cela. Sinon, nous aimons les êtres musulmans comme les autres, mais pas leurs actes, pas leurs idées.
Je crois que grâce à des émissions comme la vôtre, Ismaël, bon Ismaël, je crois que grâce à des émissions comme la vôtre, les gens peuvent comprendre que le Père Samuel n'est pas une personne qui répand la haine autour de lui, mais plutôt la vigilance, un appel à la vigilance et à une fraternité et à un amour, mais qui ne sont pas naïfs. Parce que c'est pas parce qu'on prêche la fraternité qu'on dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, il faut voir la réalité en face. Il ne faut pas se voiler la face. Et c'est justement ce que les journalistes ici en Belgique notamment refusent de voir. Par exemple, l'émission qui a tout déclenché, cette fameuse émission d'Au nom de la loi, réalisée par la chaîne publique belge, la RTBF, en 2002. Ce journaliste est venu pendant plus d'un mois voir le père. Il a filmé l'équivalent de 40 cassettes. L'équivalent de 40 cassettes ont été filmées. Et de ces 40 cassettes, qu'est-il ressorti? Une émission d'une heure dans laquelle il avait soigneusement sélectionné les phrases les plus tonitruantes prononcées par le père. Mais des phrases évidemment sorties de leur contexte et qui font passer le père évidemment pour un dangereux fanatique. Or, ce n'est pas le cas. Si on replaçait ces phrases dans leur contexte, si on écoutait les 40 cassettes qui ont rendu la réalisation de cette émission, on comprendrait le sens de ces phrases. On comprendrait qu'en fait, le père n'incite pas à la haine, mais incite à la vigilance. Parce que quand on connaît l'islam, quand on connaît l'islam non seulement des textes, mais aussi l'islam au niveau du vécu, puisque le père est né là-bas dans les pays musulmans, il y a vécu. Donc quand on connaît tout ça, on ne peut pas parler autrement que comme cela. Mais encore une fois, les journalistes ont été très habiles et ont essayé de pousser le père à dire des phrases qui d'ailleurs qu'il n'avait jamais dites auparavant. C'est à l'occasion de cette fameuse émission que ces phrases ont été prononcées pour la première fois. Et ça n'est jamais dit, ça n'est, et le père ne les a jamais répétées et n'en fait pas son credo, loin de là.
Oui, c'était après le 11 septembre 2001, quand les deux tours jumelles en Amérique étaient bombardées. Qu'est-ce que vous pensez? Mais j'ai dit, attention, les enfants musulmans deviendront, bien islamisés, deviendront des bombes pour attaquer les Européens.
Voilà l'image de la bombe que le père avait employée. Il faut se rappeler que ces phrases-là ont été prononcées au début de l'année 2002, soit quelques mois seulement après les attentats du 11 septembre qui avaient véritablement traumatisé l'Occident. Enfin, c'était un événement incroyable. Je crois que dans une vie d'homme, c'est un des événements qu'on ne peut pas s'empêcher de retenir. Et donc, c'est quelques mois après cet événement tragique que le père a prononcé ces paroles. Donc, évidemment, quand on les replace dans leur contexte, on peut comprendre pourquoi le père a dit de telles choses.
Oui, le commissaire m'a interrogé en disant, vous avez dit ça, j'ai dit oui, mais il y a 40 cassettes. S'il y a un jour un plaidoyer, disons un procès, j'exige les 40 cassettes. Il n'y a pas ce qui a donné l'importance, ce que je dis. Mais ce qui leur convenait, ils donnaient l'importance. Regardez tous ces documents, ce sont des musulmans que je les ai aidés absolument.
Oui, le père possède des documents de musulmans qui reconnaissent que le père les a aidés en leur versant quelques dizaines d'euros pour payer les médicaments, les factures.
Vous permettez que je puisse en lire quelques-unes? J'imagine que oui.
Oui, je ne sais pas.
Ouais. Ben, disons peut-être, oui, sans forcément citer le nom pour garder l'anonymat,
ouais,
monsieur.
Oui, je ne vais pas citer le nom parce que c'est vrai.
Tout à fait. Je ne citerai pas le nom, mais par exemple... Non, je n'irai pas dire leur numéro de téléphone, n'inquiétez-vous pas là-dessus. Ou peut-être Joanne, s'il vous plaît. Oui, pourquoi pas. Voilà.
Ce que je peux dire, c'est que ce musulman s'appelle Mohamed. Bon, il y en a tellement que... Bon, Mohamed est un nom tellement répandu.
L'adresse et le téléphone sont là, mais...
Non. Et donc, ce Mohamed déclare, « Je sous-signais, Mohamed, être arabe et musulman. Je visite depuis 10 ans le père Samuel régulièrement, et à chaque fois que j'ai besoin de lui, il m'aide moralement et matériellement, et je suis prêt à témoigner quand il le faut. » Voilà. Et ici, on a toute une série de témoignages. J'ai reçu de la part du père Samuel 40 euros pour acheter de quoi manger et pour acheter mes médicaments. J'ai reçu du père Samuel la somme de 20 euros gratuitement pour acheter mes médicaments. Et tout cela des dates assez rapprochées. Encore une fois, 10 euros pour les médicaments, 10 euros de nouveau pour ces médicaments. Ça continue comme ça. C'est entre 10 et 50 euros à chaque fois, tous les mois ou tous les deux mois. Donc voilà, le père ne fait exception de personne. Quand il aide quelqu'un, il ne lui demande pas quelle est sa confession religieuse, il ne lui demande pas son certificat de baptême, il ne lui demande pas sa carte d'identité. Quelqu'un vient, a besoin du père pour une aide matérielle ou spirituelle, le père aide les gens tant qu'il peut.
Oui, par discrétion, on ne dit pas son numéro de téléphone et son adresse, mais si quelqu'un demande, on peut, voilà, regarder. Donc, je ne suis pas contre les musulmans, ni contre les arabes. Quand je dis arabe ou musulman, c'est comme je dis judéo-chrétien. D'ailleurs, Mahomet était arabe, le Coran était en arabe. S'il n'avait pas Mahomet, s'il n'avait pas le Coran en arabe, il n'y aurait pas d'islam. S'il n'y avait pas des guerriers, des cavaliers arabes, il n'y aurait pas d'islam. C'était la terreur. Les cavaliers de Mahomet, les soldats de Mahomet disaient, nous autres, nous aimons la mort. Vous autres, infidèles, vous aimez la vie. On va vous démolir. Et effectivement, c'est comme ça. C'est une religion conquérante. Vous ne pouvez jamais les sonder. Ils ont double langage tout le temps, mais quand il devient fort, l'autre doit être balayé complètement. Ça, c'est l'islam absolu.
Tout simplement pour vous dire que, écoutez, on a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Moi, ce que peut-être j'ai encore quelque chose à vous poser là comme question. Par exemple, là, hier, on s'est parlé rapidement, mais c'était seulement qu'en surface cette question-là concernant les hommes et les femmes qui ont un certain nombre, ont droit pareil au chômage. Je sais pas, je pense que c'est vous, Père Samuel, qui m'avez bien parlé de ça. J'ai trouvé ça un peu aberrant. Je me disais, je savais pas que c'était une pratique qui était courante, mais qui ressemble un peu à ce qu'on a chez nous. Lorsqu'on fait venir un immigrant, peu importe, on va lui donner un montant X, mais là, lorsqu'ils viennent ici, vous me parlez là, carrément qu'ils ont de l'argent pratiquement gratuit. Là. C'est un peu ça?
Ils appellent leurs amis, leurs familles, leurs voisins, venez en Europe, on ne travaille pas, nous touchons un salaire, maximum, gratuitement, sans rien faire, sans travailler. Alors tout le monde vient, bien sûr, mais pour moi, c'est une invasion. L'islam, depuis 14 siècles, voulait envahir l'Europe. D'ailleurs, en 732, était à Poitiers. En 711, en Espagne. En 828, en Italie. Donc, en 846, au Vatican. Donc, venez en Europe, c'est une occasion favorable. Les États européens, naïfement, bêtement, ils nous donnent la nationalité, ils nous donnent le salaire, sans rien faire. Alors, tout le monde vient, bien sûr, c'est une occasion favorable. Depuis 14 siècles, par le glaive, ils n'ont pas pu envahir l'Europe. Mais maintenant, pacifiquement, soi-disant, souterrainement, soi-disant, leur but d'envahir les Européens, de faire beaucoup d'enfants, de toucher beaucoup d'argent. Prenez par exemple, beaucoup de Belges n'ont pas de maison. Mais eux, absolument, chacun sont des maisons, des appartements à 5-6 étages. Absolument. Et ils chassent les Belges de leur lieu, de leur appartement. Ils achètent parce que l'État leur paye, l'État leur donne tout, absolument tout. Alors tout le monde vient, c'est une occasion favorable. Et c'est une naïveté de la part des Européens. Ils donnent la nationalité tout de suite. Ils donnent tout de suite des salaires. Ils écrivent, quand j'étais en Orient, je recevais des lettres. Les gens disaient, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, voilà, venez en Europe, on ne travaille pas. Les Européens nous donnent salaire gratuitement, on ne fait rien. Avancez vite, vendez ce que vous avez et venez ici en Europe. Et c'est comme ça aujourd'hui, les Européens sont très naïfs au sujet de l'islam. Ils donnent la nationalité immédiatement. Vous allez par exemple en Tunisie, Maroc, Algérie, si vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas obtenir facilement la nationalité. Vous allez en Arabie Saoudite, vous ne pouvez absolument pas bâtir une église. Vous avez dit vous-même, la Croix-Rouge était interdite en Arabie Saoudite. Écoutez, ce n'est pas sérieux. Les médecins à Londres, pour sauver les âmes, les médecins dans les hôpitaux à Londres, il y a un an, ils préparaient les kamikazes pour tuer les Européens. Je ne veux pas que les Européens soient tués par l'islam. Voilà ce que je veux. Je mets les Européens en garde.
Rapidement, Joanne, autre chose. Là, j'ai parlé de chômage qu'on donne à des gens comme ça qui arrivent ici. Mais là, c'est pas juste ça. Il y a plein de petits trucs, comme par exemple, que vous pourriez me nommer là, à tour de rôle. J'avais aussi un des avocats qui disait tout à l'heure, le premier avocat qui disait que même certaines publicités de lingerie féminine ont été enlevées pendant une certaine période de pèlerinage à l'aéroport ou quelque chose comme ça, là, si je lis bien ici. Alors, dites-moi, c'est vrai ça? Il y a vraiment des publicités qui ont été enlevées comme ça?
Oui, bien sûr. Les pèlerins qui, en France, par exemple, les pèlerins musulmans qui se rendent en pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans leur vie, conformément à l'ordre donné par le Coran, eh bien, ces pèlerins bénéficient d'un traitement de faveur, puisque quand ils prennent l'avion pour partir en pèlerinage pour la Mecque, les halls d'aéroport qu'ils traversent sont tapissés de voiles, enfin, pour cacher les publicités qui seraient un peu trop légères à leur goût et qui pourraient les offenser. Et c'est comme ça tous les ans à la saison du pèlerinage. Et bon, ben ça plaît beaucoup parce que je crois que c'était l'aéroport de Marseille. Il faut savoir qu'à Marseille, près d'un tiers de la population est musulmane. Donc forcément, ils exercent une pression très importante et on ne peut pas faire sans compter, sans les ignorer. On ne peut pas faire en les ignorant. Concernant le système d'allocation en Belgique et en France aussi, disons qu'on a un système d'allocation sociale assez développé. Qui consiste, chez vous en Amérique, c'est plutôt à chacun selon ses mérites. Chez nous, ici en Europe occidentale, c'est plutôt à chacun selon ses besoins. Alors ce système qui était plutôt vertueux jusque dans les années 60-70 est entré dans un cercle vicieux, puisqu'aujourd'hui ce système de à chacun selon ses besoins, avec un système d'allocation sociale très développé, profite surtout à des immigrés de date récente qui n'ont jamais rien fait pour le pays, qui n'ont jamais rien fait pour la Belgique ou l'Europe occidentale, et qui en arrivant du bout du monde, sans papier, avec une famille nombreuse et en prétendant avoir fui je ne sais quel combat, quelle guerre ou quel problème politique, eh bien obtiennent assez facilement, relativement facilement, des papiers et des allocations pour les faire vivre décemment. Et en Belgique, de plus en plus de Belges qui s'endettent, qui tombent dans l'endettement, dans le surendettement, qui n'en sortent plus et qui s'appauvrissent. L'appauvrissement de la Belgique et l'appauvrissement du peuple belge est une donnée statistique objective, je n'invente rien. Tous les ans, on le constate, la pauvreté augmente. Et de l'autre, on a des immigrés qui arrivent du bout du monde, qui n'ont jamais rien fait pour la Belgique et qui, eux, bénéficient sans problème des allocations. Comme les imams, par exemple. En Belgique, on a une certaine série de cultes qui sont rémunérés par l'État. Il y a des cultes qui sont reconnus à savoir la religion catholique, la religion orthodoxe, la religion protestante du côté chrétien, la religion anglicane aussi, les juifs, le judaïsme est reconnu, l'islam aussi depuis 1974, et une série d'imams bénéficient d'allocations, d'indemnités, au même titre que les prêtres. Or, les prêtres catholiques, ça fait 2000 ans qu'ils sont en Belgique et qu'ils font et qu'ils ont contribué grandement à civiliser le pays, mais les imams qui, eux, n'ont jamais rien fait pour le pays, eux bénéficient du même traitement. Et alors qu'en plus, non seulement ils n'ont rien fait pour le pays, mais en plus, quand ils prêchent dans leur mosquée, ils prêchent des valeurs qui sont contraires aux nôtres, contraires à notre civilisation, contraires à notre culture. Et c'est là que réside l'inconscience totale de nos dirigeants, qui se fichent éperdument des religions et qui ne savent pas qu'ils vont se faire avoir tôt ou tard.
C'est vrai, vous disiez, sans papier, ils démolissent leur passeport. Ils viennent dans n'importe quel pays et alors, oui, passeport, je ne l'ai pas, je l'ai perdu. Il ment. Prenez par exemple, aller en Turquie, on ne peut pas faire des églises. Si vous êtes Jacques, il dit Jacques est chrétien. C'est du racisme. Donc, la Turquie va entrer dans les pays européens. Eh bien, les chrétiens n'ont pas le droit de faire une église, n'ont pas le droit de prêcher. Vraiment, les orthodoxes ont un séminaire. Depuis 30 ans, ce séminaire est fermé complètement. Il y avait un Arménien, il a parlé de la liberté, il était assassiné. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, les imams, quand ils viennent, n'ont rien fait pour la Belgique, ils touchent le même salaire comme des prêtres. Ces prêtres, ils ont travaillé depuis 2000 ans dans les écoles, dans les universités, dans les CPAS, dans le social. Et ces imams qui touchent l'argent des Européens, ils détestent les Européens, ils haïssent les Européens, ils prêchent la guerre civile, la guerre sainte contre les non-musulmans. C'est invraisemblable. Ces hommes-là, ils n'ont rien fait pour la Belgique. Vous avez maintenant 600-700 professeurs musulmans dans les écoles. 700. Eh bien, c'est le contribuable qui leur paye. Écoutez, et en même temps, ils sont des ennemis des Européens.
Père Samuel, tout à l'heure, tout ce qu'on se raconte là, ici autour de la table, à l'émission Wake Up, c'est drôle, mais j'ai comme l'impression que la juge, ou enfin le procureur du roi, c'est comme s'ils n'étaient pas au courant ou ils font mine de rien. C'est quoi, là? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est voulu, cette attitude-là, pour rentrer dans un certain moule? Je sais pas.
Je pense trois choses. Premièrement, ils ne sont pas au courant. Deuxièmement, allez, par exemple, quand j'ai dit « Wala qatilu alladhina la yuminuna billahi wala bil yawmil akhiri » en arabe, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. « Tuez tout homme qui ne croit pas au Dieu des musulmans » chapitre 9, verset 29. Deuxièmement, ils n'osent pas dire parce qu'ils seront taxés de racistes. Troisièmement, c'est vrai, ils ne savent rien de l'islam. Ils pensent qu'un musulman comme un Polonais qui va être intégré. Loin de là, une mosquée bâtie ici, ce qui veut dire le pays est conquis déjà.
Parce que ce qui est drôle, c'est que je veux bien croire, mais les journaux comme tout le monde, ils écoutent les médias, la radio, la télé, ils voient sûrement quelques trucs de gauche à droite. Et en passant, je crois que la Belgique, c'est un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup de bandes dessinées, hein, par exemple. Je sais pas, Spirou et Fantasio, Tintin, je pense aussi, je me trompe. Est-ce que je me trompe, Tintin?
Oui, d'ailleurs vous êtes ici à Charleroi, dans la capitale de la BD. Capitale de la bande dessinée. La Belgique est très connue pour ses bandes dessinées. Et Charleroi est la capitale de la bande dessinée.
Est-ce que c'est pour ça que le procureur du roi, je sais pas?
Non, quand un musulman, un belge, dit oui, mais ce n'est pas ça l'islam, il n'est pas fait d'amalgame, c'était un homme un petit peu malade. Oui. Voyez-vous, quand un Européen va en conflit avec un musulman, alors là, les manifestations contre les Européens, les manifestations contre le racisme, mais tant un Européen dit, mais ce n'est pas ça l'islam, c'était un homme malade, vous savez. Et c'est, on n'ose rien, personne n'ose rien dire, parce qu'il y a l'égalité des chances, soi-disant, eh bien, si quelqu'un va parler immédiatement, ils vont donner au tribunal.
Oui, et quand un musulman passe à l'acte, eh bien, on dit toujours, comme vous dites, soit c'est un déséquilibre mental, soit c'est un acte isolé d'un fanatique. C'est l'acte isolé d'un fanatique. Comme dit le père, pour que certains occidentaux comprennent le danger de l'islam, il faudrait que tous les musulmans aillent se faire exploser dans les tours jumelles de New York, dans les métros de Londres ou de Madrid, ou encore que tous les musulmans aillent tuer Théo Van Gogh. C'est évidemment impossible. C'est logiquement impossible. Tous les musulmans ne peuvent pas se transformer en terroristes. Mais il suffit de quelques musulmans pour tuer des centaines d'Européens ou d'Occidentaux, de non-musulmans en général. Et on l'a bien vu donc à Londres, à Madrid et à New York. Et il faut se dire aussi que si ces musulmans-là sont passés à l'acte, il y a d'autres musulmans qui, eux, ne sont pas passés à l'acte, mais qui ont contribué à fomenter cet attentat. Et ils les ont accueillis, ils les ont nourris, ils les ont financés. Ils ne se sont pas fait exploser, mais ils ont participé activement à la réalisation de ces attentats. Il y en a simplement quelques-uns qui se proposent, qui se sacrifient et qui disent ben ça va, moi je vais aller me tuer. Mais il y a tout un réseau derrière là qui agit et qui est organisé et qu'on ne voit pas évidemment et que les gens ne veulent pas voir.
Il y a aussi quelque chose, juste avant que vous poursuiviez, que j'ai trouvé fort intéressant. Il y avait un représentant passant de l'égalité des chances. Vous l'avez peut-être pas observé, mais pendant une bonne secousse, hein, ça avait l'air d'être très, très. Il a dû avoir une grosse journée. Il dormait à la course. J'ai trouvé ça intéressant de voir. Ben oui, c'est ça, face à la présidente, il cognait même des clous, là, cognait de la tête là, vers le bas. J'ai trouvé ça intéressant. On prend au sérieux ce qui se passe, ce qui se produit envers vous, Père Samuel. Franchement, là, je suis très étonné. Là.
C'est-à-dire, quand on dit l'islam modéré, l'islam intégriste, pour moi, j'ai étudié l'islam depuis 40 ans. Je suis spécialiste de l'islam. Nos ancêtres ont été massacrés par l'islam. Il n'y a pas islam modéré, islam progressiste. Il y a l'islam tout court. Par exemple, quand un bon musulman, il prie, il dit « Allahu Akbar, Dieu est grand ». Quand un musulman fanatique, tous les Européens, va égorger un Européen, il dit « Allahu Akbar ». Il utilise les mêmes slogans, les mêmes mots, absolument les mêmes mots. Donc, il n'y a pas d'islam modéré, islam progressiste. Il y a l'islam tout court, l'islam de Mahomet, l'islam du Coran, l'islam de la sunna, l'islam de la charia. Donc, il n'y a pas d'islam modéré. L'islam modéré sont des hypocrites. Ils attendent le moment. S'il y a un guerre civil un jour dans un pays, par exemple, eh bien, les premiers, c'est eux qui vont attaquer. Absolument. Comme par exemple, Kosovo, à Serbie. Mais ils étaient des musulmans immigrés chez les Serbes, des Turco-Albanais, musulmans immigrés chez les Serbes. Ils ont demandé eh bien, l'autonomie ou l'indépendance, eh bien, les Serbes ont dit non. Il y a eu la guerre civile. Des milliers d'hommes et de femmes sont morts. Donc, l'islam, quand il est faible, ça va, il est gentil, entre guillemets. Mais quand il devient fort, l'autre doit être balayé. Et ça va venir en Europe. Voilà, les Kosovars demandent l'indépendance unilatéralement. Ils ont obtenu. Donc, l'islam n'est pas pressé. Un jour viendra en Belgique, en France, en Espagne, en Hollande. Ils vont demander l'indépendance. En Hollande, il y a des villes, 40% sont des musulmans. À Bruxelles, 35% musulmans. Depuis 30... 60%. Oui, je crois qu'il faut absolument tenir compte de tout cela. Mais un jour viendra, vous savez, tout ce que nous disons, ils vont dire, mais le Père Samuel nous a dit, mais on n'a pas tenu compte. On n'a pas donné l'importance. Quand, par exemple, les enfants des juges, les enfants des industriels qui vont être kidnappés, massacrés, attaqués par l'islam, là, ils vont comprendre. Et ça va arriver, croyez-moi.
Mais comme je disais tout à l'heure, le seul tort du père, c'est d'avoir eu raison trop tôt. Voilà. Les gens se rendront compte du danger, mais quand il sera peut-être trop tard.
Mais l'islam dit ceci. Nous avons conquis Alexandrie, Égypte. Nous avons conquis Jérusalem. Nous avons conquis Istanbul, c'est-à-dire Constantinople. Nous avons conquis Antioche. Ce sont des patriarcats du christianisme. Il nous reste Rome. Nous allons attaquer un jour le pape et Rome sont des infidèles. Le pape, c'est l'idolâtre. Ils écrivent des lettres au pape Jean-Paul II. Convertissez-vous parce que vous êtes un idolâtre. Vous adorez le démon. C'est inacceptable.
Oui, mais le pape, il ne s'est pas converti là, aux dernières nouvelles. Là. Il ne travaille pas de mèche avec eux par hasard.
C'est regrettable. Oui, c'est regrettable. Il y a des prêtres gauchistes, effectivement. Ils collaborent avec l'islam. Ils trompent les Européens. On n'a pas le droit de tromper les Européens. Le Dieu des chrétiens, c'est absurde de sa part. Après 6 siècles, qui va envoyer un Mahomet contre Jésus-Christ? C'est impossible.
Père Samuel, Joanne Bourlard, merci à tout le monde d'avoir été là. Dans le fond, on termine ça maintenant parce qu'on a dépassé de 36 minutes exactement, mais ça m'a fait plaisir puis je suis très heureux d'être ici. J'espère qu'on aura la chance de reproduire l'expérience, Père Samuel, Joanne Bourlard. Je vous dis merci. Vous écoutez Wake Up le show. Et présentement, 15h38, on est en direct de Belgique. à Charleroi. Et il est 9h36 pour le Canada, Québec. Merci tout le monde. À demain. Non, pas demain. Merci. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye.